Dan Gagnon, podcast tout seul, édition du vendredi 3 avril. Faut que je vous parle de la journée d'hier, jeudi 2 avril. J'avais fait le podcast la veille où je parlais entre autres du mouvement Body Positive. Et je dis, ce que j'aime pas avec le mouvement Body Positive, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui s'en servent pour crier à la grossophobie alors que parfois ça n'a rien à voir. Se draper dans un truc de victime pour ne pas avoir à changer certaines choses. Et je dis depuis le début, j'essaie de prendre d'un côté le risque de donner mes opinions quand elles ne sont pas finies de former, en ayant le plus de délicatesse possible pour ne pas blesser, évidemment, mais surtout pour essayer d'avancer là-dedans dans une piste de réflexion. Si tu parles d'un sujet en connaissant les choses à moitié, en disant « Hey, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? » L'être humain, dans mon expérience, est ainsi fait que tu as plein de gens qui arrivent de partout, qui t'éclairent, tu as accès à l'expérience des autres, à une série de données, de statistiques, d'opinions, de références, et c'est merveilleux. C'est merveilleux uniquement quand tu arrives à le faire dans un espace où tu n'as pas un groupe convaincu d'avoir raison, qui essaie d'insulter très fort le groupe opposé, et inversement. Moi, je vous l'avais dit, je veux qu'on ait un endroit où tout le monde peut profiter de la connaissance de tout le monde, pour avancer ensemble, bienveillance, voilà, bienveillance. Et je sens personnellement une responsabilité, une imputabilité là-dedans d'être sûr de modérer mes réseaux de façon à faire en sorte que quiconque arrive et donne son opinion a de la place pour s'exprimer et chacun le fait de manière constructive. Donc je dis ça, ce truc-là, mon avis, en me disant, j'y ai pas formé, j'ai pas vécu mes expériences, des expériences personnelles, dites-moi si vous trouvez que je dis de la merde. Et j'ai eu une journée de découverte. Tu sais, quand tu découvres ce que la plupart des gens connaissent déjà et que tu fais comme « Ah! » C'est comme découvrir une série télé à la 11e saison. C'est l'impression que j'ai eue aujourd'hui. Et tout a commencé par un commentaire que... D'ailleurs, je remercie beaucoup l'auteur du commentaire. C'est Boris Boyon qui m'a écrit ça. Donc, sur le Patreon du podcast, donc Dan Gagnon Podcast, hein, sur Patreon. Et voici ce qu'il me dit. Boris me dit « Bonjour Dan, j'aime l'idée de parler librement et de dégrossir ta pensée au fil des épisodes. Cependant, je pense que tu fais erreur en te montrant si péremptoire concernant les médecins et la grossophobie. » Oui, parce que je racontais l'anecdote d'une amie qui était voir un médecin et le médecin lui dit qu'il faudrait qu'elle perde du poids. Et sa réaction a été de dire « Ah, grossophobe ». Et dans ma tête, c'était, évidemment, c'est un médecin. Si c'est pas bon pour ta santé, le responsable de ta santé va te dire de perdre du poids. Donc, je vois Boris qui me dit, je pense que tu fais erreur. Cool, voyons voir pourquoi. Et c'est sincère quand je dis cool. Quelqu'un qui dit, je pense que tu te trompes, normalement, il enchaîne pas avec sale con. Il enchaîne avec, et voici pourquoi. Si tu enchaînes avec sale con, de toute façon, ça ne m'intéresse pas d'être dans ton entourage. Mais j'ai la chance d'avoir créé autour de moi un entourage qui, pour l'instant, a toujours été bienveillant. J'essaie de ne pas prendre les gens pour des cons. Je pense que quand je vous parle dans le podcast, ça sent que je suis sincère, que je parle des choses qui m'intéressent vraiment et que je ne pars pas du principe que les gens sont des imbéciles. Je pense que les gens sont souvent des potentiels développés à différents niveaux. Mais que voilà, les gens sont, en général, entre nous, on est souvent un miroir. Tu traites bien, les gens qui te traitent bien et vice-versa. Donc, je remercie, je vois ça, je suis super content. Donc, Boris m'a dit, tu fais erreur. Je dis, bon, pourquoi est-ce qu'il pense ça? Je reprends son texte. Les médecins, dans l'exercice de leur métier, au-delà de leur statut de scientifique, sont vecteurs de nombreuses formes d'oppression. Racisme quand on ne donne pas d'antidouleur à un homme noir, sexisme quand on prescrit des anxiolytiques à une femme qui souffre du cœur. De nombreux rapports existent et les livres de Martin Winkler traitent pertinemment de questions proches de celles-ci. Déjà, première bonne nouvelle, il y a de la connaissance que je peux aller chercher pour mieux construire mes opinions. Donc, Martin Winkler. Merci, Boris. Je n'ai pas encore été lire aujourd'hui. Je vais vous raconter ce que j'ai fait à la place, mais j'ai pris ça en note et ça m'intéresse vraiment très fort. Je continue son message. La grossophobie peut alors s'exprimer dans un rappel constant à la norme mince. Une personne grosse qui consulte son médecin pour des maux de gorge n'a pas nécessairement besoin que son médecin lui rappelle son état. Et c'est exactement cette phrase-là qui a allumé une lumière chez moi. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, peu importe ton avis, peu importe comment tu vois les choses, c'est limpide. Si tu as une angine et qu'on te dit que tu as des trop gros mollets, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est ça que, tu sais, quand tu as une opinion, tu es comme dans une bulle. Et il y a des gens qui ont ce talent de pas nécessairement te faire changer d'avis comme ça, mais d'aller juste faire un petit trou dans cette bulle. Et là, tu commences à gratter le petit trou et tu découvres autre chose. Et c'est vraiment ce que Boris a fait pour moi. Cette phrase-là m'a fait faire exactement ce son. Mais tu sais quoi? Je vais fouiller. Donc, je suis allé sur ma page Facebook et je vous ai demandé des témoignages. Avec ça, je vais pouvoir avoir un peu, disons, un petit échantillon de ce à quoi ça peut ressembler. Moi, je me suis souvent, je vous disais hier, trouvé trop mince. Encore aujourd'hui, je crois que je me vois absolument pas comme je suis. Le côté body dysmorphia, je me trouve soit plus gros que ce que je suis ou plus mince que ce que je suis. Mais j'étais longtemps, longtemps à me trouver vraiment pas assez musclé et trop mince. Donc, c'est encore l'image que j'ai de moi. Mais j'ai pas ce truc-là d'être en dehors de l'IMC, comme on dit, donc le poids santé. Et donc, j'ai cherché vos témoignages. Donc, le post, c'était juste ceci. Je cherche des témoignages de gens qui ont été victimes de violences médicales en lien avec leur poids. Des commentaires déplacés, voire des insultes alors que vous consultiez pour une chose qui n'avait rien à voir. Et c'était ça, pour moi, la clé. Et ça, ce point de départ-là m'a amené beaucoup plus loin. Déjà, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages en quelques minutes. En moins d'une heure, j'en avais la plainte. Et j'ai passé le reste de la journée à lire vos commentaires, à répondre. J'ai reçu beaucoup de messages en privé de gens qui voulaient garder l'anonymat, je peux comprendre. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne au téléphone, je vais vous en reparler, une conversation absolument fascinante d'une heure avec exactement le genre de personne avec qui tu as envie de parler. Et la personne, bon, c'est une militante, elle s'appelle Myriam Baudou. Et elle travaille pour un organisme qu'elle a créé qui s'appelle Femmes de droit, entre autres. Et c'est via ce post-là que quelqu'un l'a tagué en disant « Hey, toi, t'as des choses à dire là-dessus, peut-être que vous pouvez vous mettre en contact. » En quelques minutes, on s'est mis en contact et je l'appelle. Et c'est quand même délicat. La personne, la première chose qu'elle me dit, c'est « Je suis en situation d'obésité morbide, pardon. Je suis militante, féministe. » Voilà, elle me donne un peu son pedigree. Et je lui dis « Ok, merci beaucoup de prendre du temps. Par contre, j'ai une question. Est-ce que je peux te dire exactement ce que je pense, sachant qu'il y a des choses qui sont certainement fausses et que tu vas être capable de me dire qu'elles sont fausses, mais si j'évite de mettre trop de gants, ça me permet de partir du vrai point de départ, ce que je pense vraiment. Donc toi, tes arguments, ils vont être beaucoup plus justes. Parce que si je te donne une version édulcorée de ce que je pense, les arguments, ils vont être en fonction de la version édulcorée. Donc peut-être que ça va moins venir me chercher. Et le point, encore une fois, est de ne pas être blessant, de ne pas être vexant, d'être la version la plus positive de toi-même, en théorie. Et elle m'a dit quelque chose, j'ai trouvé ça fantastique. Elle dit « J'ai un ami avec qui on parle et de temps en temps, quand on est dans des sujets comme ça, des choses plus délicates, que ce soit une personne qui a plus de connaissances que l'autre, ou tu sais, t'es un peu au balbutiement de ta réflexion, ce qu'on se dit pour savoir, tu sais, se donner un code en gros, un genre de safe word, elle dit « Est-ce que je peux me mettre en mode brouillon? » Et je trouve ça merveilleux comme expression, en mode brouillon, donc je vais sortir mes choses. Si je suis vexant, tu me le dis, mais on a clairement établi le respect. On a établi une zone de respect entre les deux. Et donc voilà, donc je vais être en mode brouillon aujourd'hui. Et je remercie infiniment Myriam pour la conversation qui m'a apporté beaucoup de choses. Je vais revenir à cette conversation-là, mais je veux commencer en parlant plutôt de vos témoignages. Première chose qui m'a choqué. Parce que moi, j'ai découvert ça comme énormément d'hommes ont découvert après le mouvement MeToo qu'un harcèlement sexuel, ça n'arrivait pas à une femme sur un milliard, etc. Et donc, j'ai passé la journée à lire et à interagir avec vous. Première chose qui m'a choqué, donc, vous avez une visite médicale au primaire. Je parle aux gens de Belgique. Je crois qu'en France, c'est la même chose. Au Québec, je ne me souviens pas vraiment. Il me semble que oui. Il me semble qu'il y avait des gens, ce qu'on appelle du CLSC, donc Centre local de santé communautaire, je ne sais pas. Bref, pour les vaccins, entre autres. Et vous aviez des carnets de santé et apparemment, c'était une angoisse terrible pour beaucoup de personnes de passer devant quelqu'un qui allait vous juger. Et il y a eu des deux côtés. Moi, ma question, c'était plus sur la grossophobie, mais les gens trop minces reçoivent aussi, mais trop minces encore une fois, les gens plus minces que la moyenne ou plus minces qu'une moyenne que tu te fais dans ta tête, reçoivent aussi beaucoup de commentaires. Et deux personnes m'ont dit que, comme elles étaient très minces, lors de la visite médicale, les médecins demandaient genre, est-ce que tu as assez à manger chez toi? Et les gens qui ont vécu ça m'ont dit que c'était un traumatisme. Je me mets dans la position de la personne qui fait la visite. Est-ce que c'est la meilleure manière de dire... Le fait que tu aies un concern, donc une inquiétude bien légitime, le bien-être d'un enfant bien légitime, tes médecins doivent le protéger bien légitime. Et quand je dis est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire, c'est pas une figure de style, ou c'est juste est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Et surtout, est-ce que tu as conscience de l'impact de ce que tu dis. C'est important de vérifier que les enfants aient assez à manger. Je veux dire, encore une fois, quand il pleut, il tombe de l'eau. Voilà. Il y a des évidences comme ça. Ça, c'est le même principe. Et d'autres qui disaient que dans le carnet, il y avait des notes. Et ce carnet que tu ramenais à la maison avait parfois des choses qui, clairement, des décennies après, ont marqué. Une qui s'est dit, elle est un peu... C'était quoi? Potelé. C'est pas le terme médical. Ça vient du latin potleun, qui veut dire grosse mais ça va. Je sais pas. Potelé. Et aussi un qui avait une note genre trop grande. Trop. Et la personne qui a fait le témoignage m'a dit qu'est-ce que ma mère a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui scie les deux pieds. Hein? Et c'est là que j'ai vu, en lisant, donc voilà, déjà ces premières dizaines de commentaires-là, le premier impact de. Je dirais l'effet curé. À l'époque, si le curé du village disait quelque chose dans les années 20, peu importe ce que les autres disaient, c'était le Saint Graal. Et si le médecin dit quelque chose, forcément, il y a une autorité. Donc, avec l'autorité vient une énorme responsabilité. Je vois ça. Deuxième chose que je vois, c'est énormément de gens qui disent que le médecin... En voyant arriver, c'est des femmes, les quelques exemples, c'était des femmes à chaque fois, voyant arriver les femmes avec un problème de santé en situation de surpoids, que ce soit obésité ou un peu plus léger, et ne prenaient pas la peine de chercher. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « On m'a découvert une maladie orpheline 15 ans après. On m'a découvert une maladie génétique orpheline, une intolérance alimentaire à quelque chose 10, 12, 15, 20 ans après. » Et la seule raison pour laquelle j'ai passé 10, 12, 15, 20 ans dans cette situation compliquée de souffrance-là, c'est parce qu'on m'a regardé et on m'a jugé avant de faire la recherche. Vous voyez le biais que tu peux avoir. Tu achètes une voiture, puis le lendemain, tu vois cette voiture-là dans la rue partout, puis tu fais « c'est fou, il n'y en avait pas avant, puis maintenant il y en a partout des « une telle ». Un de tes amis déménage en Bulgarie, puis tu fais, c'est fou, depuis que tu as déménagé, là, il y a tout le temps des news sur la Bulgarie. Ça a toujours été là, mais comme ça n'avait aucun intérêt pour toi, la Bulgarie ou les, je sais pas, Peugeot 207, tu ne les voyais pas. Et il y a ce côté-là, c'est tellement l'inverse de la démarche scientifique. Je ne vois que le fait que tu sois grosse, donc je ne vais pas chercher plus loin parce que mon biais fait en sorte que... Et là, c'est l'inverse. Hein. Si vous êtes médecin et vous entendez ce que je dis et vous n'êtes pas d'accord, good! À chaque fois que j'ai tort et que je réalise que j'ai tort, c'est une fois où je viens d'apprendre quelque chose. Donc, écrivez-moi, encore une fois, le même principe avec grand plaisir. Je vois ça. Et je veux vous lire quelques témoignages, juste parce que je crois qu'on apprend. On apprend quand les choses nous touchent. Moi, c'est en tout cas comme ça que je fonctionne. Je crois que c'est quand même assez répandu. Et si tu fais « Ah, mais vous savez que 22,4% des gens en situation de surpoids ont telle chose. » C'est super intéressant, c'est important, c'est scientifique, mais pour percer une petite bulle, comme je disais tout à l'heure, c'est pas comme ça. C'est par une histoire qui va te toucher particulièrement. Parce que quand ça te touche, tu arrives à voir ça avec le regard d'une autre personne, je pense. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. Delphine, Je suis en obésité morbide, mais ça ne se voit pas réellement, dû à des soucis hormonaux. Maladie non traitable, car jamais analysée, car féminine. Ça, c'est un autre truc que je vais absolument vouloir parler. Je ne sais pas où j'avais vu ça. Mais c'était il montrait une différence entre le budget alloué dans les 10-15 dernières années pour les études sur la dysfonction érectile versus les études pour certaines maladies qui ne touchent que les femmes. Et c'était complètement hallucinant. Donc, le biais dans la recherche médicale vers les problèmes masculins, ça, c'est un sujet que je veux fouiller. Ça m'intéresse très fort. Je fais du sport, j'ai une bonne endurance, je mange sainement. Je reviens à l'anecdote de Delphine. Donc, un jour, mon médecin m'envoie chez un cardiologue pour un examen car mon cœur bat vite. Je fais tous les exercices, le docteur est même étonné. « Ah, vous n'êtes pas encore essoufflé? » Mais non, comme j'ai dit, je fais du sport. Résultat de l'examen complet, ben, faut pas vous étonner d'avoir le cœur qui bat vite. Le moteur d'une petite Citroën dans un gros camion, c'est normal que ça rame. Cette phrase-là, vous imaginez la violence? J'ai pas su répondre. J'ai eu des envies de suicide pour la première fois de ma vie et j'ai été m'acheter un menu dans un fast-food que j'ai mangé dans ma voiture. Je pense que le médecin avait envie de me booster, de me mettre un coup de fouet, mais ça a eu l'inverse. Jamais le médecin m'a demandé ce que je faisais déjà, ni pourquoi j'étais en surpoids, ni même si j'avais déjà un suivi par rapport à ça. Vous voyez un peu ce que je disais tout à l'heure? Audrey. En allant voir un médecin pour une angine, il m'ausculte et c'est effectivement une angine. Aucune prescription, ni antibiotique, ni rien, mais une phrase qui est restée en mémoire. Si vous perdiez 20 kilos, vous verriez que vous seriez plus malade. Idem pour mon dos. J'ai le bassin et la colonne vertébrale déviée, mais c'est aussi parce que je suis grosse et absolument pas parce que j'ai une jambe plus courte que l'autre et qu'avec le temps, mon bassin a basculé et la colonne qui a suivi. Céline. En 1999, j'avais 20 ans, j'ai dû me faire opérer pour mes calculs rénaux. Arrivé aux urgences la nuit du samedi au dimanche, on me dit que le chirurgien m'opérera le lundi matin. On me demande donc de rester à jeun tout le dimanche. Le lundi matin, on me dit que finalement, ce sera le soir, donc on continue le jeûne. Et puis le soir, on m'annonce encore un report de l'opération au mardi matin. Moi, à bout de douleur et surtout affamé, j'ai dit que j'en pouvais plus et que j'avais faim. On m'a répondu « Oh, ça va, vous avez des réserves ». La violence. Christelle. Le vieux gynéco proche de la pension qui est malheureusement de garde le jour de mon accouchement. Il faut procéder à une césarienne et en salle d'op, il dit à la jeune qui doit couper de ne pas faire de gauche à droite, mais plutôt de bas en haut. C'est plus facile et puis pas grave, elle est grosse, elle ne se mettra pas en bikini. La violence. C'est flabbergastant. Vous m'entendez en même temps, je clique parce que je défile les anecdotes. Je souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est Safia, de type anorexie-boulimie. Quelques années après l'apparition de mes troubles, j'étais hospitalisé. À l'époque, je ne vomissais pas mes crises, j'y arrivais pas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai rencontré une diététicienne. Celle-ci me dit « Ah, très bien, tu profiteras de l'hospitalisation pour perdre du poids. » Tu profiteras de l'hospitalisation pour perdre du poids. Je faisais alors 60 kilos pour 1,69 m. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le médecin qui me suivait était furax et interdit à cette personne de m'approcher. Par la suite, j'ai réussi à vomir. Je suis descendu à 39 kilos. Aujourd'hui, je suis entre 44 et 48. Elle n'a pas été la seule à me faire des remarques. Lorsque tu as des troubles TCAS, donc j'imagine troubles comportement alimentaire, excuse-moi, tu te prends souvent des réflexions que tu sois maigre ou pas. Sarah, j'ai toujours été en surpoids, donc un peu comme beaucoup ici, la visite médicale à l'école était bien chiante. Et je parle pas du cours de natation, mais ça, c'est autre chose. Sauf qu'avec le temps, j'ai trouvé l'arme imparable, l'autodérision. N'étant pas parfaite et étant consciente de ça, je me suis toujours moqué de moi-même. Du coup, personne ne me fait de remarques, car c'est pas drôle pour eux, y compris les médecins. C'est moi qui attaque, comme ça, ils ont juste la possibilité de se taire. Il y a tellement de choses dans ce commentaire. Il y a évidemment la tristesse infinie qu'un enfant doive trouver pour survivre émotionnellement, la stratégie qui est « je vais me démolir moi-même, comme ça les autres pourront pas le faire ». La violence. Et Et encore à ce jour, donc pour Sarah, c'est la meilleure stratégie. Personne ne se démolit et s'impose cette souffrance-là s'il n'y a pas un avantage qui est plus grand. Donc, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a un comportement destructeur, dis-toi que l'avantage qu'il en retire est plus grand que la destruction ou la douleur qu'il ressent. Donc, plus quelqu'un fait quelque chose de destructeur, plus ça te donne une idée de la quantité de souffrance qu'il y a dans tout ça pour que ce comportement-là soit moins pire que le fait de ne pas le faire. Pour l'anecdote, mes parents avaient reçu un courrier de la visite médicale, nous dit Barbara, qui précisait que j'étais trop petite. J'espère que tes parents t'ont étiré depuis ce temps-là. J'ai été voir un ostéo une fois pour un mal de dos lancinant, nous dit Cécile. C'était sans appel. Pareil chez un médecin spécialisé pour un autre problème. Mais c'est pas tellement qu'ils le disent, en fait, parce que le corps est une machine complexe et ça doit probablement pas aider, mais c'est le ton. Tu sais au ton que c'est de ta faute et qu'ils vont pas chercher plus. Et là, je fais une pause dans les anecdotes exactement pour... C'est la deuxième chose qui m'a marqué. Tu sais au ton que c'est de ta faute et qu'ils vont pas chercher plus. Tu sais, ce sentiment qu'on va pas t'aider, que tu dis quelque chose mais qu'on t'écoute pas. À la visite médicale, quand t'es un enfant, ça doit être quelque chose. Et ça reste à l'âge adulte. Je reviens à la conversation que j'ai eue avec donc Myriam. Je lui dis, je peux te parler donc en mode brouillon. Oh oui, vas-y, pas de problème. Je sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai recommencé le podcast une fois ou deux parce que j'étais pas content de la façon dont je l'avais fait. Et je le dis rapidement au cas où je l'ai déjà dit pour pas que ça soit chiant. Mais Myriam m'a dit que c'est un code qu'elle avait avec un de ses amis. Quand tu veux commencer à échanger sur une idée où t'es pas certain de tes opinions et tu veux pas vexer, tu dis, est-ce que je peux me mettre en mode brouillon? C'est une manière de montrer ton ouverture puis que t'es dans un cocon de bienveillance. Et je dis, je peux te dire genre les choses directement comme ça, tu peux me répondre directement sur ce que je pense vraiment et pas sur la version édulcorée. Elle dit, vas-y. Je dis, mais le fait d'être en surpoids, d'être une personne grosse. Et là, elle m'a arrêté déjà. Elle dit, tu sais quoi? Je pense que c'est pas si positif que ça de dire personne grosse. Tu dirais pas genre que je suis une personne brune parce que j'ai les cheveux bruns. Et je dis, tu sais quoi? Je t'ai pas dit personne grosse parce que je pense que c'est la meilleure locution. C'est que je pensais que c'était celle qui allait te vexer le moins. Ce que moi, je pense profondément, c'est que c'est hyper contre-productif. Quand tu commences à euphémiser certaines choses, il y a un sous-texte qui est tellement plus violent qui est « Ouh, voici quelque chose de grave. Si t'es mince, t'es mince. T'es gros. » c'est devenu une insulte. Donc, je peux comprendre la distanciation, mais gros, ça fait partie de toi. T'es pas une personne grosse, mais pas ta grosseur à côté. Puis après ça, tu vas te coucher. Tu vois, c'est une entité. Et moi, c'est personnel. Mais ma passion, ça a toujours été la communication. Je crois que se réapproprier ces mots-là et d'enlever le sous-texte d'insulte, encore une fois, si tu dis pas une personne grosse et que tu penses que gros c'est une insulte, mais gros c'est pas supposé être une insulte. Voilà, j'essaie juste d'avoir de la délicatesse pour les gens qui se sentent concernés et pour qui ça peut être touchant. Et elle me dit, en fait, c'est toujours ce côté-là, on part du principe que si t'es gros, obèse, c'est d'office parce que tu manges mal. Mais elle dit, c'est quoi? Je connais aucune personne qui soit en situation d'obésité et que ce soit uniquement parce qu'elle ne fait pas de sport et qu'elle mange mal. Elle dit, même essaie de bouffer que des chips, que du fast-food, tu n'y arriveras pas. Il y a d'office quelque chose qui s'est passé dans ta tête pour que tu te nourrisses aussi mal. Elle dit, le corps par défaut, c'est ce qui est bon pour lui. Et si tu manges à ta faim, et c'est là qu'elle me parlait des travaux. Donc, je veux juste retrouver le nom parce que je veux aussi aller lire ça. Elle m'a parlé des travaux de quelqu'un qui s'appelle Zermati, qui est cofondateur du gros groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids en France, qui était nutritionniste, puis pour ça, qui s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il y avait toujours, les gens revenaient, disent soit je suis pas bon, soit ça marche pas, et qui est devenu psychologue pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Et lui, sa théorie, c'est ça. Si tu manges à ta faim, mais la vraie faim, quand t'es encore conscient de tes limites, genre, que tu ne manges pas pour manger tes émotions, pour compenser, parce que c'est du réconfort ou quoi que ce soit, tu vas arriver exactement au poids où tu dois être. Et ça, c'est un test. Si vous ne l'avez jamais fait, allez faire du sport et apprenez à écouter votre besoin en sel. C'est absolument fascinant. Parce que forcément, quand tu fais du sport, tu sues, tu perds donc, du sel. Mais tu peux apprendre à reconnaître le moment où ton corps t'en demande. C'est du génie absolu. Et il y a tellement de choses que le corps fait naturellement qui est du génie absolu et qu'on a juste désappris et qu'on n'écoute plus. Et Myriam, donc, me citait une étude. Elle dit, je te la cite de mémoire. J'en ai reparlé après autour de moi. Elle est assez connue apparemment. Ils ont fait des tests avec des enfants. Jeunes enfants, autour de 6-8 ans. Sans supervision des adultes, ils vont se nourrir par eux-mêmes dans un buffet où il y a tout. Poisson maigre, poisson gras, viande maigre, des pâtes, du pain, des sucreries, des desserts, du chocolat, de la glace, tout. Et le but, c'est de voir qu'est-ce que le corps va demander, qu'est-ce qu'un enfant qui est connecté normalement avec lui-même va faire. Première journée, il y a des embouteillages derrière les sucreries, le chocolat et les desserts, évidemment. Et après quelques jours seulement, ils se sont rendus compte que les enfants respectaient naturellement la pyramide de l'alimentation, le guide alimentaire au Canada. Et ça m'a fait penser à une chose que ma sœur m'a dite. Ma sœur qui a un jeune enfant. Et elle dit toujours, je le laisse être le maître de sa bédaine, donc de son ventre. C'est toi qui sais quand ta bédaine est pleine, c'est toi qui sais quand t'as faim. Et j'y apprends à se faire confiance. S'il ne veut pas manger un aliment, il n'est pas obligé de manger un aliment. On s'arrange pour qu'il mange équilibré, mais voilà. Et ce qu'elle me dit, que je trouve super intéressant, elle dit, je ne vais jamais lui dire, mange encore 2 brocolis. Parce que ce que tu as déjà entendu, toi, une seule fois, quelqu'un dire, non, allez, mange encore 2-3 frites. Non, donc c'est louche. Pourquoi est-ce que tu fais ça avec le brocoli, que tu ne fais pas ça avec les frites? Et c'est là que tu vois toute notre relation fucked up avec la nourriture qu'on transmet, qu'on peut transmettre, mais tellement tôt. J'ai une autre anecdote que je connais de quelqu'un qui me disait qu'il avait déjà vu ses amis l'été pour leur jeune enfant le nourrir. Il avait un énorme potager, l'assoyait dans le milieu du potager, puis disait « Prends ce que tu veux. » Première fois, l'enfant croque dans une tomate verte, c'est pas bon. Après ça, une tomate rouge, c'est bon. Et naturellement, l'enfant allait vers des choses. Et évidemment, je ne suis pas un crétin non plus. Je sais qu'on n'a pas tous le temps de se faire un énorme potager. Et voilà, et que des fois, genre, la vie, c'est violent. Puis tu reviens, puis tu es au bout de ta life. Puis tu prends un truc que tu tapes dans le micro-ondes et que tu réchauffes, qui est fait à base de sel, de gras, puis de sucre. Puis mieux vaut ça que pas manger. Et Myriam encore me disait, c'est là que tu vois, on n'est pas tous égaux devant la nourriture. Et évidemment, que dans les... Qu'est-ce qui coûte moins cher? Aux États-Unis, c'est encore plus marquant. Qu'est-ce qui coûte moins cher pour nourrir? Genre, tu vas chez Taco Bell, ça coûte 2-3 $, tu as un repas, puis ça coûte 4-5 pour avoir un brocoli. Des parents qui travaillent les deux super fort, ils viennent à la maison, sont crevés, tu n'as pas toujours le temps de faire un petit quelque chose. Et donc, voilà. Il y a la vie, il y a la réalité, il y a les habitudes, il y a les complications. Mais tout ça pour dire que le point de Myriam et des gens avec qui j'ai parlé aujourd'hui, était de me dire, il y a un biais quand tu vois une personne grosse. Je redis personne grosse parce que je me sens assez mal à l'aise de dire grosse. Une personne obèse, qui est, c'est de sa faute. Elle ne fait pas attention à elle. Elle ne prend pas soin. Elle dit, fais le test. Va dans la rue. Elle dit, tu ne peux pas le faire évidemment, là, mais fais-le dans ta tête. Là. Va parler d'apport calorique, de protéines, d'oligo-éléments, de régime, de combinaison des aliments, des vitamines avec des gens dans la rue au hasard. Tes stats vont certainement être que ce sont les personnes grosses qui connaissent ça beaucoup mieux parce qu'elles, elles ont dû s'en occuper. Et Myriam me racontait son histoire où elle disait que elle, son premier régime, elle l'a commencé à 3 mois. À 3 mois, le médecin trouvait qu'elle était trop grosse et donc ils ont commencé à lui donner du lait, donc de la formule, lait en poudre, en diminuant les doses pour qu'il y ait plus d'eau que de lait. Et donc apparemment ça fonctionnait, elle a perdu du poids, sauf qu'elle criait beaucoup. Puis après ça, ils ont enrichi le lait, puis elle a repris du poids. À 3 ans, ils l'ont mis au régime. À 9 ans, elle avait du Slim Fast. Elle dit, quand j'y repense aujourd'hui, elle avait genre 3 kilos en trop. Elle dit, un enfant de 9 ans, t'imagines la relation fuckée que tu lui donnes avec la nourriture? Elle dit, aujourd'hui, au poids que j'ai, je sais qu'il y a un certain nombre de kilos qui sont parce que je mange probablement trop sucré. Mais sur les 40 kilos, 50 kilos que j'ai en trop, il y en a 5-10 que c'est ça. Mais je suis jugé pour les 50. Et je crois que c'est le fait d'être jugé comme ça sans savoir, de ne pas s'attaquer au problème parce que de toute façon, c'est de ta faute. On va moins te soigner parce que, peu importe de t'évidence, tu t'en fous. Sans même qu'on te pose la question. Et c'est ça qui m'a touché vraiment le plus aujourd'hui, c'est de mettre à la place de tous ces gens qui sentent jugés toujours, alors que leur situation physique, leur poids, n'est absolument pas en corrélation aussi évidente avec leurs habitudes de vie que ce que l'ensemble de la population, ou presque, peut juger. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je me rends compte que forcément, quand tu parles tout seul, ça se trouve, tu pars dans une dérive et t'es tout seul dans ta tête. Mais c'est ça, moi, qui m'intéressait le plus. C'est la prise de conscience que toute la conversation sur la grossophobie, mouvement body positive, sur les violences médicales, part avec un mauvais postulat de base. Encore une fois, Myriam me disait l'indice de masse corporelle, donc le poids santé, a diminué au fil des ans alors que le poids moyen des gens a augmenté. Est-ce que le fait d'avoir 5 kilos en plus est vraiment si mauvais que ça pour la situation? Est-ce que si t'es fumeur avec le bon poids, c'est pas moins bon? Elle dit, donc il y a juste des... On part du principe que certaines choses sont vraies alors que c'est pas nécessairement le cas. Je vais évidemment lire les livres qui m'ont été conseillés parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et cette histoire de violence médicale me... Ouais, j'allais dire me touche, mais je pense que ça fait 100 fois que je dis me touche, mais me touche beaucoup parce que j'avais pas réalisé, et là je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que comme un con, vu que ça me concerne pas, je l'ai pas vu. Malheureusement, je crois que c'est assez classique, mais je me suis dit, quelle est la seule chose que je peux faire après avoir lu? Là, j'ai lu quelques témoignages, mais je dis, c'est des dizaines et des dizaines et des longs trucs, et des 2-3 pages, et des 20 ans de dossiers médicaux et de vie médicale qui me sont racontés. Et j'ai trouvé ça beau, il n'y avait vraiment aucune pudeur, c'était avec beaucoup de sincérité, et tu sentais vraiment le cri de « on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas cru, on ne m'a pas entendu ». Et c'est là que je me dis, c'est, je ne peux pas faire grand-chose dans la vie, je suis humoriste, je soigne personne, je fais... Mais, et ça paraît pas vraiment que je suis humoriste cette fois-ci, mais c'est pas parce que tu es humoriste que tu es obligé de toujours faire des blagues d'ailleurs. Mais là, j'essaie de me servir de ce podcast-là pour pas convaincre des gens, créer une secte de « j'ai raison » quoi que ce soit, mais juste essayer de percer la petite bulle, celle où tu dis genre « ah putain, ouais ». C'est vrai que finalement, même si c'est ma sœur, l'appeler Bouboule, si ça se trouve depuis qu'elle a 5 ans, qu'elle a peur d'aller chez le médecin, qu'elle sait qu'elle va être jugée, qu'elle redoute le moment où elle va tomber enceinte, que voilà. Peut-être que c'est pas nécessaire. Peut-être que mes blagues de gros, c'est pas si marrant que ça. Yvon Deschamps avait fait quelque chose de merveilleux. Yvon Deschamps est un des meilleurs humoristes de l'histoire. Lui, il se voyait comme un monologuiste. Et c'est le plus grand humoriste qu'il y a eu au Québec, à mon avis, en stand-up. Et il aimait souvent prendre une situation et l'amener le plus loin possible, plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à l'amener à son point de ridicule, à la limite. En mettant la loupe sur un comportement, tu peux te rendre compte qu'il n'est pas terrible. Je donne un exemple plus concret. Il fait venir un jour sur scène quelqu'un du public qui est assez gros. Et il dit « ça va, ouais, t'asseoir sur la chaise, hein? » Petite blague de gros, le public rigole. Il en fait une deuxième. Le public rigole. Et là, lui, il rit super fort, il rit de ses propres blagues et il enchaîne. Et 4, 5, 6, 7, 8. Et boum, 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 boum. Et le public commence à rire de moins en moins. Et là, il y a comme un malaise qui s'installe. Et lui, plus le malaise s'installe, plus il s'emballe et il continue de rire exactement à la même intensité. Et je lui dis de tête, c'est un sketch qui est vieux de plusieurs décennies. Et je me souviens pas comment il le termine, mais je me souviens que l'impression que ça te laisse, c'est si tu trouves pas ça drôle à la 10e blague, pourquoi est-ce que tu penses que ta première blague est marrante? Tu crois vraiment qu'il a jamais subi ces blagues-là, lui? Toi, c'est la première. Lui, c'est la 8000e, probablement cette semaine. Et un peu de. Et un peu de cœur, en gros. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer. J'ai pas fini avec ce sujet-là. J'ai envie d'entendre vos retours aussi là-dessus. Évidemment. J'ai envie de corriger le tir au fur et à mesure. J'ai envie de passer du mode brouillon au mode version prédéfinie. J'espère avoir fait amende honorable par rapport au podcast d'hier. Je remercie infiniment tous ceux qui, sur ma page Facebook, avaient pris le temps et le courage de raconter ça. Souvent, c'est clairement des traumatismes et ça ne doit pas nécessairement être facile de le partager. Je vous remercie de me permettre de nourrir ce podcast-là et de surtout de respecter encore une fois l'espace qu'on est en train de créer. Je vois que ça grossit, je vois que ça grandit, c'est super. Tous les messages, tous les commentaires vont dans le même sens. On essaie de faire quelque chose de bien. Mon objectif, c'est juste de parler de ce que je trouve le plus intéressant possible, la manière la plus intéressante et intelligente possible avec les limites de mes connaissances. Puis j'ai besoin de vous pour me corriger, me nourrir, inspirer, participer, que ce soit pas quelque chose... Je l'aurais juste déjà tout seul, mais j'ai pas envie que le projet en général il soit tout seul. Donc, je vous remercie infiniment, et même si c'est chiant, je vais le dire à chaque fois parce que c'est sincère. Merci beaucoup à Myriam, avec qui j'ai passé une heure au téléphone, qui a été merveilleuse de commentaires et qui m'a laissé vraiment lui poser les questions les plus directes possibles. Et je crois que c'est quelque chose que je vais essayer de créer. À chaque fois que je vais aborder un sujet, je vais essayer de trouver des personnes ressources pour moi, échanger avec eux et revenir ici raconter ça de la manière la plus intéressante possible. Je vais certainement reparler à Myriam parce qu'on a abordé dans la discussion un petit quelque chose sur la pilule pour les filles. Donc la pilule... anticonceptionnelle? Contraceptive. Waouh! La pilule contraceptive. Et j'ai entendu, moi, entre les branches depuis mon château fort d'homme, plein de commentaires et ça m'intéresse. Il y a l'air d'avoir des histoires d'horreur autour de la pilule. Et je vous rassure, ce ne sera pas juste un podcast médical, mais aujourd'hui, c'est ça qui m'intéressait. Clairement, aujourd'hui, c'est ça qui vous intéressait. Je suis ravi d'avoir échangé sur Internet. Je suis ravi d'avoir échangé avec vous en live, avec Myriam entre autres, et je suis ravi d'avoir fait ce numéro. Évidemment, vos réactions sont plus que les bienvenues. Puis je m'arrête ici. Passez une bonne journée.